Zoomat présente.
You've been making music for more than 25 years now.
Yeah.
Is there something like a threat going in?
Oh, you know something? I think it's as corny as Search for a Spiritual Foundation. I really do think it's as kind of cliche as that.
That's an easy answer.
Yes, I know, and unfortunately I keep coming back to it, you know. I suppose it's that, is a term that the Gnostics use, which is called the God beyond God. And I think that there's a sense of once trying to find some merit in the chaos that we perceive as our existence. And for someone like myself who comes from, like most of us, I don't know, in this room, come from the Judeo-Christian upbringing, there's something that pulls with the idea of having a God who's a judge and a father and an arbiter of morals and whatever. It just doesn't, it seems too symbolic, it's too easy. And I think that the idea that the early Gnostics had, which is that there is in fact the deep, the depth of the God beyond the God. There's something beyond that which one can't call a singular entity. It's something that just pervades everything. And I still think that that's probably one of the major searches that I've probably made in my life.
Donc, je suis dans une salle virtuelle avec M. Pacôme Thielman. Pacôme, bonjour.
Bonjour, M. Simon.
Donc, Pacôme, tu es essayiste, tu es également cinéaste, tu es plusieurs choses. Tu es l'auteur de plusieurs livres, dont « La victoire des 100 rois » qui aborde les écrits gnostiques. La question des gnostiques m'est revenue en tête cette semaine. Je crois que c'est un sujet qui a été rattrapé par l'actualité au Québec et dont je voulais te faire part. Notre premier ministre, François Legault, est revenu sur une décision par rapport aux mesures sanitaires et il est désormais permis au lieu de culte, d'accueillir 250 personnes. Donc, un groupe de 250 personnes peuvent aller à l'église. Et une drôle de question qui m'est venue en tête, c'était que, ben, pour les gnostiques, l'accès au temple, au lieu de culte, n'aurait pas été un problème.
Moi, ce que ça me fait penser aussi, c'est que pour vous, est-ce que vous pouvez aller dans des théâtres, par exemple?
Ils viennent de réouvrir.
D'accord.
Ils viennent tout juste de réouvrir.
Parce qu'en France, on peut aller dans les églises, mais on ne peut pas aller dans les théâtres. Ce qui amène l'idée que le théâtre ou les salles de cinéma sont des cultes relativement hérétiques, ou secondaires, considérés comme des cultes secondaires. Mais de toute façon, oui, je suis d'accord. On peut commencer, pour parler des gnostiques, par poser la question de la hiérarchie ecclésiastique et de la question des cultes. puisque une des choses qui, on va dire, identifie les gnostiques ou distingue, c'est qu'ils n'ont pas été une religion organisée du tout. Que même le terme gnostique qui les met en, qui en fait un bloc, est un terme donné par les spécialistes des hérésies ou les théologiens pour les mettre dans un même paquet, mais en réalité, c'était ou des micro-groupes ou des individus, mais certainement pas une église concurrente. Le point de départ, c'est justement que la personne de Jésus ou la parole de Jésus a entraîné différents types d'adhésions. Et si les chrétiens connaissent bien la distinction entre, on va dire, la manière dont Pierre a reçu la parole de Jésus ou la manière dont Paul a reçu la manière de Jésus, puisque dans un premier temps, ils se distinguaient, Pierre voulait réserver, voulait faire du christianisme une sorte de réforme juive, et Paul a voulu en faire un culte universel dans lequel on pourrait faire rentrer les Grecs, les Latins, etc., etc. Ça, on sait bien, ils ont fini par trouver une sorte d'entente et chacun, à leur manière, sont considérés un peu comme les pères principaux hein, de l'Église. Première grande figure, c'est l'Église de Pierre et de Paul. À côté, il y avait plein d'autres gens qui voulaient suivre la parole de Jésus sans faire une Église ou sans essayer de construire un culte à partir d'une parole qui, pour eux, au contraire, abolissait les possibilités de recréer de la hiérarchie entre les hommes sur la base de leur accès à la parole divine. Que l'accès à la parole divine puisse faire l'objet d'une séparation entre les prêtres, mettons, et les hommes ordinaires. Ce qui fait que quand il y a eu, dans certains groupes qu'on a appelés gnostiques, des réunions, le prêtre était tiré au sort parmi les personnes présentes. Ça a énervé énormément Irénée de Lyon. Cette idée du tirage au sort énervait énormément Irénée de Lyon. Ça fait aussi partie des choses qui sont très, très modernes dans l'histoire des gnostiques. L'idée de la possibilité de tirer le chef au sort. Et c'était évidemment pour eux totalement indifférent que ce soit un homme ou une femme, puisqu'il y a de nombreuses occurrences dans les textes gnostiques d'une égalité posée comme deux principes en résonance avec, évidemment, la parole de Jésus entre les hommes et les femmes. Donc, tout ce qui a été recréé comme hiérarchie entre hommes et femmes dans le christianisme, ça leur était particulièrement odieux. En tout cas, ça leur était totalement étranger. C'était quelque chose avec lequel ils n'ont pas eu du tout à faire. Donc, on peut l'aborder de plein de façons différentes, la question de ce que sont ou ne sont pas les gnostiques. On peut dire, c'est tous ceux qui ont voulu essayer de vivre comme Jésus, ou de vivre à la mesure de la parole de Jésus, de vouloir agir, de vouloir faire de ces paroles des actes. Et des exemples très simples peuvent être donnés assez rapidement. Pour distinguer, on va dire, les gnostiques, ou ceux qu'on a associé aux gnostiques, même les manichéens, même les cathares, des églises chrétiennes. Un truc connu quand même de Jésus, une parole classique de Jésus, qui est de ne pas répondre à la violence par la violence. Quand on te frappe sur une joue, tends l'autre. Bon, cette parole fameuse, je pense que même le plus fervent des chrétiens admettrait qu'elle n'a pas été respectée énormément par la hiérarchie, par les membres éminents de son Église. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé assez vite des moyens de quand même pouvoir tolérer la violence, voire l'encourager à partir du moment où il s'agissait de personnes qui étaient des ennemis de la religion elle-même. C'est quelque chose, évidemment, qui n'est pas du tout le cas pour ceux qu'ils ont considérés comme des hérétiques et qu'ils ont non seulement combattu, mais qu'ils ont fini par exterminer. Parce que les gnostiques ne sont pas morts de mort naturelle, ils ont été exterminés. Les manichéens ne sont pas morts de mort naturelle, ils ont été exterminés. Et les cathares ont été notoirement, puisque c'est quand même une histoire plus récente, exterminés. Et ils ont été exterminés d'autant plus facilement qu'ils ont, eux, essayé d'appliquer la parole de Jésus. On peut dire que c'est ça qui les distingue. Dans un premier temps, c'est vraiment ça. Ensuite, après, dans leur mode de vie et dans leur choix de vie, dans leur façon de voir la vie, c'est aussi quelque chose de très net. Et donc, on peut dire qu'à la différence des églises chrétiennes, ils ont refusé la hiérarchie ecclésiastique, ils ont refusé la hiérarchie entre hommes et femmes, ils ont posé une, enfin, ils ont exprimé une indifférence totale aux pratiques sexuelles, et on trouverait difficilement dans les textes qu'on dit des textes gnostiques un marchandage au péché. Tu as péché, donc tu dois demander pardon, on te donnera le pardon, etc. etc. Ça, c'est des trucs qui sont très, très étrangers. Comme elles sont étrangères, d'ailleurs, à la parole de Jésus, puisqu'il était, il était venu abolir la notion de péché originel. Et il était venu abolir le péché, et les chrétiens ont inventé ce truc génial qui est, oui, oui, il avait aboli le péché juste le temps de sa présence sur Terre, mais comme vous l'avez crucifié, alors le péché, il est revenu. Hein, et il est revenu de façon costaude. Donc, il y a une cohérence. Même si ce n'était pas un groupe organisé, on peut dire que ce sont des figures très différentes, Simon le magicien, Basilide, Valentin, Mani, les cathares, etc. Mais c'est, on pourrait dire, c'est toutes les personnes qui ont essayé d'être cohérentes par rapport à Jésus sont ces personnes-là. Après, ce qui les distingue, et ce qui distingue les groupes, ce qui distingue les individus, etc., est nombreux. C'est souvent des imaginaires qui sont différents. Et j'ai un blog qui s'appelle Le Livre sans visage, et sur ce blog, j'avais proposé récemment aux personnes qui le suivaient de me poser des questions s'ils avaient envie sur des points que je n'avais pas traités, sur des sujets que je traite. Et quelqu'un m'a demandé si je pouvais revenir sur les questions d'Éon, de Syzygie, de Sophia, etc. Et alors, j'ai articulé une réponse par rapport à ça. Oui, bien sûr, si on veut étudier, je dirais, la psychologie d'une figure du gnosticisme, c'est très intéressant, parce qu'on verrait son image du labyrinthe et comment il a essayé d'en sortir. Mais je ne pense pas qu'il soit pertinent d'essayer d'opérer une synthèse de toutes ces visions-là, parce qu'on n'y arrivera pas, à mon avis, parce qu'entre Basilide et Valentin, on trouvera d'énormes distinctions dans leur vision du cosmos, entre tous les groupes, d'énormes distinctions. Ce ne sera pas les mêmes noms pour les émanations de la divinité, pas les mêmes noms pour les émanations du démiurge ou pour les archontes, et ce n'est pas très grave. Pour moi, c'est la même chose que si on essayait de vouloir rendre cohérentes, mettons, les voyages dans l'au-delà de Swedenborg, de Blake ou de David Lynch dans Twin Peaks. Chacun a son voyage, je dirais. Donc, chaque voyage est intéressant en tant que tel parce qu'il est, on va dire, ce qui raccorde la psychologie individuelle avec le cosmos ou avec la vision du tout, la vision de l'ensemble. Mais c'est une porte parmi d'autres, et c'est pas, en tout cas, je pense, qui est le plus important par rapport à leur par rapport à leur parole.
La notion du temple me rappelle mon premier contact avec les écrits gnostiques, le moment où j'ai réellement pris connaissance de leur existence. Et comme plusieurs choses dans la vie d'un jeune homme du 20e siècle, c'était au cinéma avec le film Stigmata.
Ah!
Ce n'est pas un très bon film, mais qui aborde directement cette question-là. Et à la lumière de ce que tu évoques, je constate que ce qu'on pourrait appeler la représentation hérétique des gnostiques persiste. Mais ils ont été accueillis de façon plus positive dans les représentations de la culture populaire. Ça ne me semble pas être une coïncidence.
Non, non. C'est très clair que on peut dire qu'il y a eu plusieurs temps par rapport aux gnostiques dans l'histoire, mais ils n'ont jamais été aussi bien accueillis que les 50, 60 dernières années. Alors, ça se démontre par un certain nombre d'apparitions dans la culture populaire. Alors, les premières, c'est, je dirais, alors j'ai essayé beaucoup de savoir comment ça a pu avoir lieu. John Lennon et Philip K. Dick sont les premiers dont j'ai pu trouver, on va dire, une déclaration franche, ouverte et nette par rapport à ça. Et John Lennon, dans un écrit des années 70 qui s'appelle Éclat de ciel, écrit par Ouidir, et en fait, plus exactement, dans un texte autobiographique d'Éclat de ciel qui s'appelle The Ballad of John and Yoko, dans lequel il dit que les véritables chrétiens sont, étaient, et il met entre parenthèses sont, point d'interrogation, les gnostiques. Et aussi, dans un de ses derniers entretiens, un entretien donné 2 mois avant sa mort, dans lequel il revient sur le fait qu'il y a eu Jésus, il y a eu des chrétiens qui n'ont absolument pas suivi la parole de Jésus, qui ont fait quasiment le contraire de ce qu'il a dit. Il a dit, pour moi, ceux qui l'ont suivi, ce sont les gnostiques. Les gnostiques, il dit, pour moi, ils sont très proches des soufis ou des bouddhistes zen, mais on les connaît fort mal. Et il dit, il ajoute aussi, on m'a accusé d'être anti-religieux, c'est pas vrai. En fait, je suis pour les vrais religieux. Et je pense que l'élément transmetteur, en fait, des gnostiques dans la culture populaire, c'est Jung. Parce que Jung fait partie de ceux qui se sont intéressés aux gnostiques avant la découverte des textes de Nag Hammadi, donc dans la première partie du XXe siècle. Là, c'est vrai qu'on en a un certain nombre, mais qui sont dans un univers qui est un univers, on va dire, plus culturel ou poétique ou intellectuel, pas encore directement populaire. Mais Jung a eu un impact sur la culture populaire assez important. Des indices, c'est sa présence sur la pochette de Sgt. Pepper. Et d'une certaine façon, il a amené en contrebande l'intérêt pour les gnostiques, ou en tout cas, ils ont entendu parler pour la première fois des gnostiques, certainement en lisant Jung. On sait que Lennon lisait Jung déjà sur le tournage de Hard Day's Night. Il y a une déclaration d'un des acteurs de Hard Day's Night qui disait que Lennon, toujours un peu chef de bande dans ce truc-là, avait instauré le rituel chaque matin d'analyser le rêve des personnes de l'équipe, des rêves des personnes de l'équipe, et il les analysait avec son petit guide d'interprétation des rêves de Jung. Et Dick était familier de Jung déjà très jeune et bien avant ses expériences mystiques des années 70. Il avait en particulier une de ses meilleures amies, qui était aussi sa voisine à l'époque où il vivait dans le comté d'Orange. Son nom m'échappe momentanément, mais c'était une psychanalyste jungienne. Donc, c'est des choses dont il doit être familière. C'est probablement aussi le cas pour David Bowie, parce que David Bowie aussi a notoirement fait des déclarations d'affiliation gnostique, beaucoup plus tardives. Elles arrivent dans les années 90, quand il sort les disques Outside, Earthling, et qu'il donne des interviews où il est un peu plus dans une espèce de costume d'homme sérieux. Dans son costume d'homme sérieux, il aime beaucoup disserter sur la philosophie ou sur des choses comme ça. Et quand on lui demande son rapport au religieux, il dit, à mesure que je vieillis, je me méfie de plus en plus de ma religion initiale qui est protestantisme. Et je me sens de plus en plus proche des gnostiques. Et il dit plus exactement, j'oscille entre l'agnosticisme et le gnosticisme, si vous me permettez l'expression ou un truc comme ça. Et un peu plus tard, mais lorsque on a fait une expo à New York, je pense que c'est au début des années 2000, quand il y a eu la sortie du livre rouge de Jung, il y a eu une grande expo qui montrait les images originales, où David Bowie s'est rendu et où, sur place, il avait déclaré « Bon, ça ne surprendra personne que, en fait, je dois une grande partie de mon imaginaire à Jung, parce que l'idée, en fait, de créer des personas successives dans ma discographie, dans lequel j'allais essayer de régler à la fois un problème personnel, mais qui était un problème plus général, qui était englobé dans cette figure-là, bon, Ziggy Stardust, Aladdin Sane, Halloween Jack, etc., etc., Tim Weiduck, doit beaucoup à l'enseignement de Jung. Donc, on peut imaginer qu'il y a eu une passation qui a été liée à la psychologie des profondeurs, ou en tout cas à la figure de Jung, dans la culture pop, déjà au moins sur ces figures-là. On va trouver néanmoins des citations directes des textes de Nag Hammadi dans plusieurs séries télévisées. Là aussi, c'est un exemple tardif que j'ai, qui est les années 90, mais il est tellement énorme que de toute façon, toute lecture du rapport entre culture populaire et gnosticisme ne pourra pas en faire l'économie. C'est un épisode entier de la série Millennium. Millennium, c'est cette série de Chris Carter, donc c'est Chris Carter, c'est l'homme qui a fait les X-Files, et après il a fait une deuxième série, Millennium, qui explorait.
Il était un spin-off de The X-Files, ça se déroulait dans le même univers.
Alors, en fait, c'était X-Files l'a rattrapé comme spin-off dans une saison ultérieure à Millennium. Mais oui, c'est dans le même univers, mais pendant longtemps, en tout cas, ça ne se rencontre pas. C'est le Lone Gunman. Ça, c'est un pur spin-off.
Ouais.
Mais Millennium, au départ, c'est une autre série qui se déroule à Seattle et qui est avec une figure de profiler. Et c'est une série, l'influence directe qu'a Chris Carter, c'est Seven, Le silence des agneaux, et surtout la publication des autobiographies des profilers Jack Douglas et Robert Ressler, et tout ce qu'il apprend sur Quantico et l'Académie de psychologie, enfin l'Académie policière de psychologie ou l'Académie de psychologie du FBI. Et à ce moment-là, il est intéressé par l'idée de faire une série de profilers, et avec une assez bonne intuition, une intuition intéressante, étrange, il l'articule avec l'idée de prophétie apocalyptique. Ça tient, mais en fait, c'est une série qui est extrêmement diverse, comme tout ce que fait Chris Carter. Essayer de mettre de la cohérence dedans, ça, c'est presque contradictoire avec le plaisir qu'on peut en obtenir, parce qu'au bout d'un moment on s'énerve parce que ça ne marche jamais vraiment. Et donc dans le courant de la deuxième saison, il y a un épisode où le héros principal est totalement absent, Frank Black, qui était joué par Lance Erickson, et en fait c'est un épisode autour de la femme de Frank Black et d'une membre de Millennium, Millennium étant cette espèce de société secrète d'anciens profilers en relation avec des prophéties apocalyptiques, et une membre de Millennium qui s'appelle Lara Means. Et donc, Catherine Black et Lara Means se rencontrent sur une école où, en fait, Catherine Black, la femme de Frank Black, est une pédiatre. Et en fait, il y a plein de problèmes dans cette école parce qu'on considère que les filles sont possédées par le diable. Et en fait, quand elles arrivent, elles se rendent compte, enfin, Lara Means a les notions et Catherine Black a la sensibilité, on va dire, qu'elles ne sont pas du tout possédées par le diable. En fait, elles ont une sorte de lecture par clairaudience de textes de Nag Hammadi. Elles lisent des extraits des textes de Nag Hammadi comme s'ils étaient insufflés par elles. Et c'est très intéressant, c'est un groupe de jeunes filles qui sont comme des jeunes rockeuses, grunge. Elles sont vraiment personnifiées avec des chemises à carreaux, des jeans et des chemises à carreaux. Et elles ont souvent une bière en main. Donc, c'est vraiment l'image, c'est un peu Kurt Cobain and Associates. Et les premières scènes sont rythmées par une chanson de Patti Smith qui est Dancing Barefoot. Et il y a cet univers un peu rock and roll de jeunes filles qui en fait se retrouvent reconnectées à l'esprit de Marie-Madeleine. Cet épisode qui est vraiment une sorte de singularité dans Millennium ne traite pas du tout des serial killers ou de l'apocalypse. Au contraire, puisque, et ils le disent de toute façon dans cet épisode comme dans quelques épisodes où ces questions sont évoquées, justement, l'apocalypse n'a pas de valeur pour les gnostiques. Elle a toujours déjà eu lieu. Ils n'attendent pas quelque chose qui devrait arriver dans l'avenir. C'est toujours, on va dire, l'apocalypse est toujours vécu au présent. I don't know why I Et là, c'est dans une espèce d'épisode très ramassé. Comme ça, on a des citations de plusieurs livres de Nag Hammadi. On a un résumé qui explique la position des gnostiques. On a un discours de Lara Mins sur les rapports entre gnosticisme et féminisme dans le monde moderne. L'idée que c'est normal que des jeunes filles d'aujourd'hui, avec un point de vue politique sur la question des femmes, puissent trouver une source utile dans ces textes-là, parce que ça rappelle à quel point la personne de Marie-Madeleine a été maltraitée dans l'Église. Il y a même l'idée que Marie-Madeleine n'était pas une prostituée, que c'est arrivé dans le courant de l'histoire chrétienne qu'on a fini par faire de Marie-Madeleine une prostituée. Enfin, il y a énormément d'éléments qui sont vraiment du savoir brut sur le gnosticisme qui est donné dans une série de 94-95, quoi. Donc ça, c'est très, très intéressant. On comprend que à ce moment-là, ça fait partie des choses qui circulent concrètement dans l'univers des scénaristes de séries. Et ça, c'est pour moi totalement réaffirmé par au moins quand je parle de références directes. Il faudrait vraiment une liste des références directes, on en aurait, et après de tout ce qu'on pourrait dire être l'influence, parce que l'influence est beaucoup plus vaste. Mais références directes, The Leftovers, il y a une citation directe de l'évangile de Thomas dans un épisode. Et elle est dite par le prêtre. Bon, mais le prêtre, il est très spécial aussi, puisqu'il cite aussi le Coran à un moment. Donc, le prêtre, il est assez ouvert d'esprit dans son... Il n'y a pas de doute. Le pauvre et cher Matt. Matt Jamieson, à un moment, fait une citation directe de l'évangile de Thomas. Ça veut donc dire que c'est des choses qui circulent ouvertement et concrètement. Après, au niveau des influences, c'est beaucoup plus vaste. On a aussi deux autres exemples, mais qui sont des séries que je connais beaucoup moins, qu'on m'avait indiqué. Une série notoirement inspirée par Thomas Pynchon qui s'appelle Quelque chose 49. C'est pas l'autre 49, mais c'est un titre un peu comme ça. Et une autre série avec Justin Theroux qui ont aussi dans un épisode fait une citation directe de Nag Hammadi. Mais sinon, au niveau de l'influence, beaucoup plus vaste. Et ça, ça passe beaucoup par le canal de Philip K. Dick, comme pour le cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, le terrain d'élection dans la culture populaire des visions des gnostiques, ça va être la science-fiction. Et ça n'est pas un hasard, parce qu'il y a quelque chose de la dystopie concrète dans la façon dont les gnostiques perçoivent le monde. Puisque le monde, pour les gnostiques, est comparable à une prison dans laquelle l'âme est jetée. L'âme humaine se retrouve dans un monde qui est construit comme une prison pour elle-même, avec ses geôliers, une prison métaphysique, et les geôliers, c'est les archontes, avec son chef de prison, qui est une sorte de chef infâme, qui est le démiurge. Donc, on est dans une vision dystopique du monde où l'homme, en fait, est piégé dès le départ. Il est dans un faux monde, et dans un monde même de carton-pâte, c'est l'expression qu'utilise Dick pour le décrire, une réalité en carton-pâte. Et cette vision du monde qu'il a explorée dès ses premiers romans, et dans ses romans les plus connus, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué ses lecteurs, en particulier dans Le Temps des Articulés, si on le résume un tout petit peu le point de départ, c'est une espèce de petite ville américaine classique, etc. Et c'est un homme qui vit avec son frère et sa belle-sœur, et tous les jours, il joue à un jeu qui est trouver l'extraterrestre, et c'est une espèce de jeu très bizarre qu'on ne comprend pas, où il doit, par des calculs bizarres, il arrive à savoir où l'extraterrestre sera dans l'image du lendemain qui est publiée dans le journal, et il gagne à chaque fois. Et en fait, derrière, c'est un gouvernement qui a créé ce faux monde pour récupérer des infos, parce que ces infos, en fait, ce qu'ils trouvent, c'est des infos qui sont concrètes pour eux, qui leur permettent de combattre. En fait, c'est des coordonnées précises qu'ils doivent obtenir. Et ils ont construit une espèce de faux monde, et qui a ce monde carton-pâte qui va être notoirement repris tout autant dans The Truman Show ou dans Dark City, ou dans tout un tas de films de science-fiction des années 90, qui vont être vraiment sous perfusion dickienne. Hein. Existence de Cronenberg ne fait pas exception, Matrix ne fait pas exception. Enfin, la science-fiction années 90, par l'influence majeur de Dick et par l'exploration vraiment du monde virtuel, enfin aussi par l'arrivée de cette notion qui vient de l'usage des ordinateurs, quoi, des mondes virtuels, de la pratique même des jeux vidéo, de la pratique de quelque chose qui finalement n'a jamais complètement marché, mais qui a toujours été tenté, qui était de créer des mondes virtuels dans lesquels les gens se rencontreraient. Moi, je me souviens d'avoir testé une fantaisie de ce genre au milieu des années 90. Ils étaient persuadés que ça allait avoir un succès extraordinaire. En France, ils avaient créé le troisième monde, le deuxième monde, et c'était une simulation de ville de Paris dans lequel les joueurs se connecteraient, auraient leur avatar et vivraient en permanence. Le truc a été un échec. Bon, il y a des choses qui ont réussi, comme les Sims, etc. Mais il y a toujours une espèce de distance. C'est-à-dire que je crois que la simulation totale est quelque chose qui est extrêmement insupportable à l'être humain, parce que ce serait l'abdication de la réalité, ou je ne sais pas quoi, il y a un principe d'abdication totale. Et en même temps, si on le regarde d'un point de vue des textes gnostiques ou des textes de Nag Hammadi, c'est déjà ce qu'on vit. C'est juste une prison redoublée. C'est-à-dire qu'il ne serait probablement pas chaud pour un monde virtuel, parce qu'il dirait, oui, mais la prison, on l'a déjà. Nous, ce qu'on veut, c'est sortir d'une prison. Donc, on veut sortir d'un simulacre de monde.
Let me tell you why you're here. You're here because you know something. What you know, you can't explain. But you feel it. You felt it your entire life. That there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there, like a splinter in your mind, driving you mad. It is this feeling that has brought you to me. Do you know what I'm talking about?
The Matrix.
Do you want to know what it is? The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window, or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth.
What truth?
That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
Trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering over your head. Look for
et en même temps presque plus accompli ou plus parachevé. C'est cette série Person of Interest qui est le point de départ et aujourd'hui pour nous assez classique, qui est un homme a créé un ordinateur, qui est un ordinateur qui calcule, qui est un ordinateur calcul de risque en gros, et qui en fait est capable de voir par des systèmes complexes de simulation et de proba qui est potentiellement en danger de mort, qui peut être tué dans la journée. Et en fait, ce truc qui est utilisé par l'armée américaine, il a fait ça, c'est un truc post-11 septembre, l'armée américaine décide de l'utiliser que pour les attentats terroristes, alors qu'il se rend bien compte que l'ordinateur qui a une volonté propre veut en faire un principe général. Ce qu'il veut, c'est l'ordinateur a comme désir d'aider les êtres humains. Et en fait, il est, à partir de la troisième saison, je ne sais pas pour les gens qui n'ont pas vu, il est mis en danger par un autre ordinateur qui, lui, veut le contrôle. Veut un contrôle policier. Et donc, en fait, on est face à deux ordinateurs. Et celui qui veut le contrôle policier s'appelle Samaritain. Le premier n'a pas de nom. Et le deuxième s'appelle Samaritain. Et donc, on est vraiment face à une guerre. C'est comme ça que la série le présente comme une guerre entre deux divinités. Et donc, toute la deuxième partie de la série joue sur l'idée qu'il y a une divinité mauvaise qui est l'enjeu de pouvoir des États, qui est vraiment un truc et qui aussi de puissance méta-étatique, qui veulent s'en emparer, enfin, en gros, qui est vraiment la machine du pouvoir. Cette machine du pouvoir se donne comme bienveillante, mais en fait veut exercer un contrôle total sur les humains. Et l'autre, qui est une espèce de machine qui est d'une connaissance totale, mais qui n'a qu'une visée modeste, qui est à chaque fois d'aider une personne à la fois. Et qui est dans une sorte de micro-politique. C'est extrêmement étonnant. Donc, on a l'une qui gère la planète entière et l'autre qui veut, à chaque fois, qui dit « Il faut aider cette personne. Cette personne est en danger aujourd'hui. Essayez de l'aider. » Et c'est des trucs qui est abyssal en termes de propositions, puisque les deux sont des ordinateurs, les deux sont entièrement reliés l'une à l'autre par des principes de, comment dire, d'intelligence commune, de machin, etc. Mais se développent complètement autre, comme c'était deux possibilités de développement de tout système ou de toute, même on pourrait dire de tout système politique, de tout système, de tout rapport à l'humanité, etc. Et là, on a, je dirais, une espèce de sommet de ce que le passage presque par contrebande du gnosticisme à travers les romans de Dick, parce que vraiment le modèle c'est un roman de Dick qui sont je crois qu'il s'appelle les marteaux de Vulcain, mais je ne suis plus très sûr. Enfin, il y a un roman de Dick avec deux ordinateurs qui se battent comme ça, l'un pour le contrôle de l'humanité, l'autre au contraire pour essayer d'aider les humanités, d'aider l'humanité. Il y a une espèce d'ordinateur qui est dans le sacrifice de ses propres possibilités et l'autre qui est dans la toute-puissance. Et ça, c'est il y a assez peu de doute que c'est la base de la série. Mais derrière, c'est une des multiples manières qu'a eu la révélation gnostique de passer. Une interprétation possible de pourquoi ça a lieu. Là, on peut repasser par Dick, parce que Dick a l'interprétation, je crois, la plus cohérente, et en tout cas, moi, celle qui me touche le plus. Dick s'est posé la question, pourquoi est-ce que j'ai été choisi pour faire passer dans mes romans des révélations gnostiques? Et alors, il s'est rappelé d'un article écrit par le romancier de science-fiction polonais Stanisław Lem, dans lequel il dit que Dick va chercher dans tout ce que la culture propose de déchets pour le transformer en diamant, pour en retirer les diamants. Et Dick dit, alors c'est pour ça, la révélation divine doit toujours chercher le matériau le moins noble pour s'exprimer. C'est sa seule possibilité. Donc du coup, comme j'étais un pauvre écrivain de pulp, c'est comme ça qu'il s'est vu, un espèce d'écrivain dont les capacités étaient celles d'un rédacteur de Outstanding, rédacteur de fanzine de SF, écrivain de nouvelles de SF, pas ce qu'il avait ambitionné dans sa jeunesse, pas d'être un nouveau Sherwood Anderson, un nouveau Tolstoï, un nouveau Dostoïevski.
On appellera un grand écrivain.
Voilà, il avait cette ambition-là.
Faulkner ou...
Voilà, exactement. Il avait cette ambition de jeunesse, il avait essayé d'écrire des romans comme ça, on les lui avait tous renvoyés. Et finalement, ce qui a marché, c'est quand il a écrit des livres sans prétention. Et alors, c'est parce qu'il a écrit des livres sans prétention que la divinité pouvait parler à travers ses livres. C'est fou parce que ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans l'exégèse, donc dans ces livres qui ont été traduits très récemment. Mais c'est quelque chose c'est des idées qu'on pouvait avoir à travers, évidemment, l'exemple. Alors, ce n'est pas du tout pour dire que je suis aussi malin, je ne suis pas du tout aussi malin que Dick, mais c'était des idées qui me semblaient couler de source. Je ne suis pas le seul, en plus. On va dire toute la pop philosophie née de cette idée-là, qui était que c'était dans ce qu'une société considérait comme le moins noble, que le noble, en termes spirituels, pouvait émerger. Et Dick obtient la même idée, en tout cas par sa propre expérience dans l'exégèse, et continue. Il dit ce qu'en général on considère comme de la pacotille, disque de rock, album de bande dessinée, roman de SF, film de série B. Bon, il n'y avait pas de série télévisée à son époque, ou alors c'était pas encore, si il y en avait, mais c'était pas encore un enjeu, mais on peut dire série télévisée, et ça marche. C'est-à-dire que, évidemment, et on peut dire aussi, évidemment, que c'est relatif, c'est-à-dire que la culture populaire de son époque, à l'époque de Shakespeare, c'est le théâtre. Shakespeare, s'il avait écrit des odes ou des élégies imitées des latins à la cour de la reine, n'aurait pas pu produire ses chefs-d'œuvre. C'est parce qu'il faisait du théâtre et qu'en gros, son public, c'était des gens qui regardaient ses pièces tout en bouffant, en draguant, en baisant, en se battant et en buvant. C'était ça, le public du Théâtre du Globe. Et ça, on le sait. Le Théâtre du Globe, c'est un endroit mal famé. Alors, il y avait bien un ou deux noblions qui y allaient en s'en canaillant. Mais en gros, ils ne s'intéressaient pas à la cour de la reine. Ça, c'est très différent du reste de la question du théâtre en France. Ça, il faut quand même, évidemment, prendre ça en compte pour voir qu'un genre, selon l'époque et selon le pays, ne veut pas dire la même chose. Ce n'est pas parce que c'est la même technique que c'est le même univers.
Oui, absolument. Et ça m'amène à Umberto Eco qui racontait dans une conférence que les grands textes littéraires, ceux qui sont canoniques aujourd'hui, le sont principalement parce qu'ils étaient des textes populaires. La Divine Comédie en Italie, Eco rapporte une anecdote où Dante se promène dans un village et il y a un ouvrier qui le reconnaît. Ça, c'est quand même drôle de dire que Dante se fait reconnaître dans la rue et lui cite un passage du Purgatoire. Et l'anecdote veut que Dante s'est fâché parce qu'il aurait été mal cité. Donc, ça en dit beaucoup sur Dante, mais ça en dit beaucoup.
Quel pisse-froid!
Exactement, mais ça dit beaucoup sur justement la popularité de ce grand texte, alors qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on a cette perspective-là de la Divine Comédie, de se dire que c'était le Da Vinci Code de
ce temps. Oui.
Encore sur Eco, je dirais que la perspective de Philip K. Dick par rapport à cette idée de trouver le diamant dans la boue, elle est centrale à tout le champ de l'étude de la culture populaire, dont Eco était. Il a lui aussi démontré qu'on pouvait trouver des réflexions fascinantes sur le texte littéraire, sur la sérialité à travers justement les bandes dessinées. Ces textes sont... sur Superman, on fait date et on oublie peut-être, parce qu'aujourd'hui, bon, les Marvel, DC occupent une place prépondérante dans notre écosystème culturel. Mais quand Eco écrit sur Superman, Superman n'était pas... C'était mal vu.
C'était
jugé ridicule. Et ce que je trouve absolument fascinant, c'est comment... Ce que tu décris, c'est que
La pensée gnostique s'est transmise jusqu'à nous de façon très souterraine. Parce que tu évoques Philip K. Dick, c'est impossible de ne pas songer à l'impact de Philip K. Dick sur Jean Baudrillard.
Oui. Et
là, si on revient en arrière, ben bon, Baudrillard qui nous ramène à K. Dick, qui nous ramène au gnostique. Donc, on pourrait analyser, ça donnerait un très beau livre, un beau mémoire, peut-être, l'influence des gnostiques sur Jean Baudrillard, qui n'est pas un auteur que je connais beaucoup, mais est-ce qu'il cite les textes gnostiques?
Oui, non, il ne cite pas les textes, mais à plusieurs reprises, il s'affilie directement aux hérétiques. C'est dans Cool Memories où il dit, parmi toutes les utopies qu'il a eues, celle d'être d'avoir été un de ces grands hérétiques, et il dit gnostique, manichéen, cathare, nervalien, pataphysicien. La caractéristique de Baudrillard, c'est son anti-citationnisme. C'est un homme qui déteste esthétiquement une pensée saturée de références. Donc, c'est vraiment par la bande, de temps en temps, qu'il évoque ça. Mais il y a la possibilité de suivre dans l'œuvre de Baudrillard cette ligne-là. La ligne pataphysique, elle n'est pas très difficile. De toute façon, il y a ce texte de jeunesse qui s'appelle Pataphysique, qui est un texte qui a été publié assez tardivement en plaquette, mais qui est en fait un texte qu'il a écrit quand il avait une vingtaine d'années. Puis il y a quelques entretiens où il parle de l'influence qu'avait eue sur Louis, parce que ça avait été son prof, je crois, le fondateur du Collège de Pataphysique, Emmanuel Payet, qui était prof de philosophie, si je ne dis pas de bêtises, prof de littérature, je ne sais pas exactement, dans la ville d'où vient Baudrillard, qui est Reims. Il a parlé aussi du fait que... Mais c'est pareil, il a dit ça juste une fois dans un entretien, que, évidemment, il était touché par le fait qu'il était de la ville de Reims, comme les membres du Grand Jeu. Mais on trouvera difficilement dans toute l'œuvre de Baudrillard 10 citations de poètes. Tu vois, c'est vraiment des trucs. Est-ce que c'est de la pudeur? Est-ce que c'est de l'ordre d'un parti pris esthétique? En tout cas, à partir de son livre De la séduction, qui ouvre vraiment sur, on va dire, l'œuvre canonique de Jean Baudrillard, si on peut dire ça. Il n'aimerait probablement pas du tout, ou alors il trouverait ça comique, qu'on dise ça comme ça pour son œuvre. On va se retrouver avec, au maximum, parce que quand il n'a vraiment pas le choix, il cite une personne, mais au maximum 5 ou 6 auteurs cités de temps en temps. Et avec, on voit une grande répugnance à devoir passer par le fait de le citer, et une préférence très nette sur des textes à partir de faits divers ou d'actualités ou d'informations récentes qu'il va passer au prisme de son regard. Ouais. Donc ça, mais c'est vrai que dans Simulacre et Simulation, l'influence de Dick et de Ballard est intégrée. Par contre, ce que je ne sais pas du tout, c'est s'il s'est intéressé justement à la dimension gnostique de Dick. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas le savoir.
Mais j'ai l'impression que ça fait philosophiquement sens que l'héritage des gnostiques se transmet avant tout de façon souterraine.
Oui.
De façon secrète.
Oui, oui.
Je crois que les gnostiques d'antan seraient fiers que l'influence se fasse pas à partir d'un système, justement.
Tout à fait. En fait, ce qui est très compliqué aussi, c'est qu'il n'y a rien de plus affreux que la façon dont une pensée devient un enjeu de pouvoir entre différentes personnes qui veulent être le bon représentant. Une querelle d'héritage. Une querelle d'héritage. On en a pour tout, presque. Hein. Je veux dire, les marxistes sont des spécialistes de ces querelles d'héritage, et les psychanalystes aussi. Hein. Et même après, au sein des lacaniens, ils vont faire la même chose. Au sein des maoïstes, ils font la même chose. Au sein des trotskistes, ils font la même chose. Et puis, les nietzschéens, c'est pareil. Et puis tu verras ça, ouais, ça se découle à l'infini, à l'infinitésimal, jusqu'au plus absurde. Et tu trouveras des exemples récents, nombreux, même dans la culture populaire. Sur la question de qu'est-ce qui est gnostique et qu'est-ce qui n'est pas gnostique, tu vois, parce qu'il y a eu des courants qui se sont revendiqués du gnosticisme. Il y a eu la gnose de Princeton, Raymond Ruillet, et tout ça, qui ont essayé de dire ce qui se passe dans les facs américaines dans les années 70, c'est les gnostiques. Il y a eu, bien avant, en France, au début du XXe siècle, une église gnostique qui, dans le courant de tous les différents mouvements ésotériques ou occultes, etc., dit « voilà, les gnostiques, c'est nous ». Et ils ont fait ça avec des méthodes un peu héritées du spiritisme, en faisant parler les morts, en parlant… alors, ça mélangeait les cathares, les templiers, tout ce que tu veux. Bon, c'est pas grave. Même si ce qui a permis aux gnostiques d'être moins un enjeu de pouvoir, c'est qu'ils ont d'abord eu une histoire qui est une histoire essentiellement tragique, dramatique, tragique, puisque c'est juste des exterminés systématiques, et qu'ils ont été souvent utilisés via l'influence de la culture chrétienne comme repoussoir ou comme exemplification de quelque chose qui serait de l'ordre de l'erreur ou de la futilité ou de la vanité ou de l'étroitesse d'esprit. Qu'on pense à l'adjectif manichéen qui est utilisé vraiment à contresens total de la pensée de Mani. On y dit manichéen, en fait, pour définir quelque chose qui appartient aux réfutateurs de Mani, les chrétiens, qui séparent les hommes entre bons et mauvais. Il y a ceux qui vont aller au paradis, ceux qui vont aller en enfer, ça on comprend. Il n'y a pas du tout ça dans le manichéisme, puisque le manichéisme, c'est vraiment une métaphysique quasiment de la nuance, la métaphysique du mélange, c'est-à-dire que tout est mélangé, les éléments de ténèbres et les éléments de lumière sont tellement mélangés que dans la personne qu'on jugerait la plus ténébreuse, il y a peut-être une lumière si forte qu'il faudrait aller la chercher et l'aider à éclore. Et il y a une idée d'un monde qui est à la fois soumis aux ténèbres et dans lequel la lumière essaye de naître, et dans lequel, en fait, le manichéen, c'est celui qui va essayer d'aider la lumière à prendre le dessus sur le ténébreux, mais pas du tout quelqu'un qui va séparer les bons des méchants. Ça, c'est complètement contraire. Et donc, quand on dit cette idée manichéenne, non, cette idée est précisément non manichéenne. Et le fait que manichéen soit devenu ça, évidemment, ça n'encourage pas les gens à vouloir devenir manichéen. Parce que quand on dit, si aujourd'hui on dirait à quelqu'un « je suis manichéen », on dirait « ok, donc tu étais con en fait ».
Absolument. Et c'est drôle parce que j'ai comme l'impression qu'une erreur, ce serait de tenter de poser l'étiquette gnostique sur un groupe comme QAnon, sur les théoriciens du complot.
Ah non, non.
Mais j'ai comme l'impression que l'erreur serait compréhensible pour certains individus, parce que c'est des gens qui aussi évoluent en parallèle. Et c'est un peu aussi, et ça c'est un point de vue qui est un peu tragique quand on y pense, parce que présentement, avec les mesures sanitaires, avec le confinement mondial, on a souvent l'impression que le contre-argument ne peut être que ceux qu'on appelle les illuminés.
Ah.
Et donc, le parallèle avec les gnostiques, on dirait que... Parlons de cette erreur-là, justement.
Oui, c'est intéressant. Alors, il y a une question, à mon avis, qui est centrale, c'est celle de, pour parler un peu comme Reich, d'investissement libidinal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les solutions sont des solutions de type autoritaire, on est quand même très loin. Alors, je ne connais pas le détail de QAnon, et peut-être que tous les mecs de QAnon n'ont pas comme rêve d'avoir Trump retour au pouvoir, mais enfin, je crois que c'était quand même ça un peu l'idée de départ. Donc, alors, oui, j'aurais beaucoup de mal à voir en Trump une grande figure de gnostique, mais on peut peut-être me détromper. Hein. l'idée que les minorités nous agressent, qui est quand même une espèce de constante, on va dire des partisans de Trump qui ont peur, des féministes qui ont peur, des indigénistes. Qui ont l'impression qu'ils sont striés de partout par la dictature des minorités, etc. etc. Bon, là, on est beaucoup plus dans la paranoïa des chrétiens classique. Et d'ailleurs, la plupart sont chrétiens. Mmh. La plupart sont chrétiens au sens con du terme, mais ils sont chrétiens. Hein. S'il y a une secte à laquelle ils pourraient être rapprochés, c'est plutôt des sectes de type chrétien apocalyptique, persuadés que la fin du monde est pour demain et qu'un grand combat a lieu. Mais ça, c'est plus tout ce qui est affilié à la figure de Jean de Patmos. De Jean de Patmos, qui est précisément une des grandes figures au style gnostique dans le Nouveau Testament. Parce qu'il y avait déjà, à l'époque du Nouveau Testament, des personnes qui voulaient suivre la parole de Jésus sans s'affilier à l'Église. Et parmi ceux-ci, il y avait ce que Jean de Patmos décrit comme des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes sont les ennemis déclarés de Jean de Patmos dans l'Apocalypse. L'Apocalypse est partiellement écrit contre le pouvoir romain, mais partiellement écrit aussi contre les Nicolaïtes et contre un certain nombre de ce qu'ils considèrent être des églises dissidentes qu'il va falloir amener au giron. Et dans l'idée de l'Apocalypse de Jean de Patmos, il y a clairement l'annonce d'un grand combat à l'issue duquel il y aura les bons qui vont aller au paradis et les méchants en enfer, bon, pour être simple. Hein. Et on est très très loin de Jésus et on est très très loin de l'évangile de Jean. Bon, ce n'est pas du tout original ce que je dis, c'est même le sujet du livre de D.H. Lawrence, Apocalypse, et D.H. Lawrence n'est pas le premier non plus à avoir opposé les deux gens. Hein. C'est une... bon, il n'y a pas de chrétien vraiment sérieux même qui a fait un peu de philologie, qui les associe, ils savent très bien que c'est des personnes complètement différentes qui ont écrit des textes, que les sources des textes démontrent comment dire, vraiment enfin, un état de texte qui n'est pas... qui n'est pas du tout de la même époque et avec le même vocabulaire et avec les mêmes influences, mais en dehors de ça, bon, c'est des projets différents, on pourrait dire. Et moi, je verrais dans, en tout cas, les groupes de type QAnon une continuation, comme on en a eu beaucoup du reste dans l'histoire de l'Amérique, hein, des sectes protestantes, hein, des sectes protestantes apocalyptiques. Elles peuvent avoir pris plein de formes différentes. Et puis, de toute façon, à partir du moment où elles ont beaucoup de pouvoir, elles n'ont plus besoin d'être aussi secrètes, etc. Mais si on pense aux témoins de Jéhovah, ce n'est pas si différent. Si on pense aux évangélistes, ce n'est pas si différent. Il s'est trouvé que dans la configuration actuelle, ils sont retrouvés à cet endroit-là et qu'il y ait Internet, à comment dire, l'impression pour les grands donateurs américains qu'ils ont engendré un monstre avec Trump, que la puissance comment dire, de l'Amérique dans le reste du monde a pris un coup vraiment violent à l'arrivée de Trump, et donc du coup qu'il fallait reprendre la main, et donc Trump n'a pas réussi à réunir autant de gens qu'il aurait eu envie autour de lui.
Zoom out.
Qu'est-ce que tu es, Don Juan?
Non.
Amusez-vous bien.